gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Pickets, do you feel good? Comment ça va? Bien, bon.
Bonsoir à toi qui tend l'oreille du côté du 102.2 de la bande FM ou sur radiocanu.org. Il est 22h, c'est retour au direct avec la causerie et ce soir dans les studios nous avons Fab.
Oh bonsoir.
Ouais, j'ai un peu...
Ah ouais, tu as changé
l'ordre. Ah j'ai changé l'ordre, c'est fou, hein, quelle folie dans cet esprit. Et à la technique nous avons Clara.
Bonsoir.
Bonsoir. Eh bien, ce soir, une causerie, l'avant-dernière de l'année, parce qu'on sera là, logiquement, la semaine prochaine.
Oui.
Eh bien, une avant-dernière causerie, bah, comme presque toutes les autres, hein, c'est-à-dire que... Eh ben voilà, on va parler de l'état du monde. Hein
ouais.
Et Fab, toi, tu vas nous parler de Mayotte, une tempête, et puis voilà.
Oui, je voulais vous parler de Mayotte, en fait, et effectivement, du drame qui s'y est passé, mais aussi des conséquences et du pourquoi. C'est surtout ça qui moi, m'intéressait. Ah oui, vas-y, t'as qu'à mettre mon casque à fond. Qui m'intéressait aujourd'hui. Pour les gens qui jouent avec les casques. Bon, alors, avant de commencer quand même cette chronique, je tiens à dire et que, bien évidemment, nous, toute la causerie, avons une pensée forte pour tous les sinistrés, pour les morts, pour les blessés sur l'île de Mayotte à la suite du passage du cyclone Chido. Voilà. D'ailleurs, c'était difficile de ne pas être totalement hébété hein, devant les images qui sont arrivées de Mayotte. Maisons dévastées, bidonvilles totalement rasées, amas de tôles, de bois partout. Mais aussi des coulées de boue, les arbres qui sont tous dévastés ou presque. Hein. L'île qui est totalement détruite finalement. Donc aujourd'hui, les chiffres qui circulent seraient que plus de 90% des habitations et lieux de vie de l'île ont été soit impactés, soit détruits. Et que le taux de destruction serait proche de 60%. Donc plus d'un lieu d'habitation sur deux a été détruit aujourd'hui. Donc difficile face à ces images de se dire que nous sommes là en fait dans le 101e département français, parce que c'est aussi ça la réalité de Mayotte. Hein. J'en profite d'ailleurs pour rappeler une chose, le cyclone n'a pas touché que Mayotte, mais aussi Madagascar, le Mozambique, la Tanzanie, les Comores et le Zimbabwe. Certes dans des proportions parfois moins importantes que ce qui s'est passé sur Mayotte, mais les oublier est quand même légèrement problématique, parce que c'est l'ensemble de la région qui en fait a été durement touchée par le cyclone Chido. Je vais pas m'étaler au-delà de ça hein, sur les déclarations dégueulasses de Macron, Retailleau et Bayrou. Pardon, il paraît qu'on dit Bayrou, donc Bayrou.
Non, Bayrou.
Bayrou, faut, je sais pas
Bayrou.
Ouais, enfin, lui là.
Bah, ça fait des dizaines d'années qu'il fait de la politique, on sait toujours pas dire son nom.
Voilà,
bon, bah,
le gars qui sera plus Premier ministre dans quelques mois. mais comment ne pas voir quand même que la vision très coloniale et pédante hein, qu'il y avait dans les déclarations de ces trois-là, entre un qui nous fait un quasiment la France, tu l'aimes ou tu la quittes, hein, au devant les sinistrés, ça c'était pour Macron. L'autre qui parle d'immigration sur un terrain de désolation, c'est-à-dire qu'il est devant des maisons totalement détruites et il explique que bah, le problème de Mayotte c'est l'immigration. Moi j'avais cru comprendre que le problème d'urgence là c'était un cyclone qui était passé, mais enfin bon voilà. Et le troisième qui oublie hein, qu'il est le Premier ministre de ce département, hein, qui semble d'ailleurs ne pas savoir que c'est un département et ne se déplace même pas sur place. Hein. On voit que la gestion de ces colonies par la France n'a pas vraiment évolué hein, finalement. Voilà.
Après, non mais après je me demande toujours, enfin, est-ce qu'ils ont besoin de se déplacer? Alors, En fait, c'est toujours ça. En fait, moi, mais que ça soit à Mayotte ou ailleurs, j'ai toujours du truc où tu dis, mais en fait, dans l'urgence, là, qu'est-ce que viennent faire les politiques en fait,
on est un État. Alors, j'avais pas prévu de préciser.
Non, ouais, désolé. Hein,
non, mais on est un État extrêmement centralisateur et centralisé en France. Mmh. Et il y a toujours une attente des populations qui est logique d'avoir, du coup, le président ou le premier ministre, parce qu'on estime que c'est le seul moment où l'État vous regarde. C'est un peu ça l'idée. Donc quand il ne se déplace pas, en fait, comme on a un État ultra centralisé et avec un roi élu, du coup, les populations se sentent encore plus délaissées. Donc effectivement, c'est toujours un peu paradoxal. Il suffit de voir, par exemple, quand il y avait eu des inondations en Rhénanie, en Allemagne, en fait, la chancelière à l'époque, qui était Angela Merkel, s'est déplacée deux semaines après, sans que ça fasse de scandale. Parce qu'en fait, les Landes qui étaient...
Oui, il y avait le pouvoir local, en fait.
Là. Et personne ne se disait, on a à tout prix besoin que Merkel se déplace. Oui. Alors qu'en France, il y a cette culture.
Ouais, donc c'est quand même lié au centralisme.
Ouais, très jacobine, en fait. Mmh. Quoi. Voilà. Mais bon, ça, c'est un peu l'historique.
Et puis pour Bayrou, pour bien utiliser son nom, il avait quand même une excuse, il a dû prendre son Falcon pour aller à un conseil municipal.
À Pau. Les maires et premiers ministres.
C'est quand même aussi été que ça.
Mais c'est fou. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a un vrai mépris dans ce qu'il disait. C'est pour ça que je ne veux pas m'étaler trop longtemps là-dessus. Et c'est justement, en fait, dont je voulais parler ce soir, c'est du sort que Mayotte a subi, mais qu'elle subit, en fait, depuis des dizaines d'années, de la vision que l'on a sur ses outre-mer, et que cela a ensuite des conséquences, comme on peut le voir aujourd'hui. Donc, un département lointain, effectivement, Mayotte, mais bourré d'exceptions surtout. Je vais quand même rappeler que Mayotte est un département français. Alors, au passage, je rappellerai juste que département, c'est un système d'administration. Ça donne pas vraiment plus de droits que d'autre chose, je vais le prouver juste après. Il n'est en rien, en fait, un territoire français comme les autres. Les lois d'exception y pullulent. Alors déjà, la laïcité n'y est pas appliquée, alors qu'elle s'applique théoriquement sur tous les départements français, donc c'est pas le cas.
Sauf l'Alsace, sauf la Moselle.
Et Mayotte.
Et Mayotte.
Le droit du travail n'y est pas appliqué. Il y a un droit du travail local qui ferait d'ailleurs bander Elon Musk. Donc vous avez qu'à imaginer un petit peu l'épaisseur du code du travail à Mayotte. Les aides sociales n'y sont pas les mêmes qu'en métropole, ou que d'ailleurs ailleurs dans d'autres départements d'outre-mer. Le droit du sol n'y existe plus par loi d'exception. Donc en gros, c'est la France sans ce qui fait les spécificités du pays en termes de vivre ensemble et de bouclier social. Voilà. Donc c'est aussi ça, Mayotte, il faudrait ne pas l'oublier, parce que ça a des conséquences, ça a de l'incidence. Dans les faits, avec ce drame, Mayotte, c'est 50% de la population qui vit avec moins de 260 euros par mois. Alors quand on sait qu'à Mayotte, la vie est 1,5 fois plus chère qu'en métropole, ben voilà, je vous laisse faire les calculs, c'est moins de 5% de la population qui peut être considérée comme, je cite l'INSEE, ayant le moyen réel de subvenir à ses besoins.
Ouais, c'est,
voilà,
c'est
pinesque. Donc c'est 95% de la population qui n'atteint pas un besoin premier. Voilà, c'est énorme. C'est aussi une ségrégation claire entre les métropolitains qui viennent travailler sur l'île quelque temps, genre les gendarmes, les professeurs, certains médecins dans les hôpitaux, voilà, autre chose comme ça, et le reste de la population. Donc c'est aussi une façon de gérer une île et de gérer en fait le rapport à la population. Mayotte, c'est aussi une terre d'immigration forte. Ainsi, selon les chiffres des ONG sur place, parce que pour avoir d'autres chiffres, c'est compliqué. Alors, si je prends les chiffres de Jordan Bardella, je vais être à 1 milliard, donc je ne vais pas les prendre. Mais selon les ONG, il y a entre 150 000 et 200 000 habitants qui n'ont pas de papier sur l'île. Alors, pourquoi ? Parce que Mayotte reste l'une des îles les plus riches de tout ce qui est l'entour. Parce que si vous regardez, ce qui entoure Mayotte, c'est Madagascar d'un côté, les Comores de l'autre, et en face j'ai perdu le nom du pays. Ah, excusez-moi, je reviens un peu en arrière. Zimbabwe et le Mozambique, qui sont deux des régions les plus pauvres du continent africain. Donc évidemment, il y a une attractivité, entre guillemets, pour Mayotte qui n'est pas illogique. Voilà. Donc c'est 200 000 habitants qui n'ont pas de papier sur l'île, d'après les ONG. Voilà. D'ailleurs, c'est ce qui a amené la fameuse opération Wumbunchu à Mayotte, dont nous vous avions parlé dans l'émission 479 du 30 avril 2023 et 484 du 11 juin 2023. Histoire qu'on ne vienne pas nous dire qu'on parle de Mayotte que quand il s'y passe des catastrophes. Le place. Je vais rappeler simplement que ces opérations consistaient à détruire des bidonvilles et expulser les habitants sans papier, sauf qu'au final, s'il y a eu bien eu destruction, ça y a eu, Voilà. Aucune expulsion ou presque n'a pu se faire, vu que les accords avec les Comores et les autres pays d'origine n'ont jamais abouti complètement, voire pas abouti du tout. Donc en fait, en gros, l'État a donc détruit des logements précaires pour mettre encore plus dans la précarité les habitants. Pour faire à peu près simple. Hein,
merci ça. L'État.
Voilà. Dans l'espoir d'ailleurs qu'ils repartent d'eux-mêmes. Darmanin, vous savez, c'est l'ancien ministre de l'Intérieur, celui qui va revenir normalement. On a appris qu'il revenait à un poste. Il assumait, et Retailleau, le ministre de l'Intérieur actuel, il a dit que c'était une bonne stratégie. Donc tu détruis les maisons et tout, et puis tu espères que les gens ils vont repartir. Je pense que ces gens ne mesurent pas ce qu'est le désespoir. Parce qu'en général, quand on part de chez soi et qu'on essaye d'émigrer sur une terre autre, c'est pas qu'on a envie de venir faire chier le monde, c'est juste qu'on a l'espoir d'y trouver une vie meilleure. Mmh. Et donc on repart pas en général, ou pas tout de suite, parce que on sait que là où d'où on vient, c'est parfois pire que là où on est, voilà, tout simplement. Donc c'est une gestion inhumaine d'un problème profondément humain, hein, qui est l'accueil de ceux et de celles venus d'ailleurs. Donc encore une fois, une belle démonstration du pays des droits de l'homme, hein, c'est ça, comme ça qu'on s'appelle.
C'est tout à fait ça.
Le problème, c'est que comme l'État refusait de compter les illégaux, comme il dit dans... c'est l'État qui les appelle les illégaux. Je rappelle que pour la causerie, tout humain est un humain, et où qu'il se trouve, il est humain, point. Il n'est ni légal ni illégal. Donc, il les comptait pas. Donc, comme il les comptait pas, imaginez... Officiellement, il y a 300 000 habitants à Mayotte. En réalité, il y a à peu près 500 000 habitants. Et toutes les infrastructures ont toujours été largement sous-dimensionnées. Oui, parce que si vous oubliez quasiment un tiers des habitants, c'est embêtant. Vous voyez, ça crée des problèmes. Donc que ce soit l'accès à l'eau, à l'électricité, les maternités, les hôpitaux, les écoles, le ramassage des déchets et leur traitement, tout ça, c'était largement, avant le cyclone, c'était largement sous-dimensionné. D'ailleurs, ça a même facilité une épidémie de choléra il y a quelques mois. Alors juste comme ça, amis auditrices, auditeurs, est-ce que vous imaginez un retour possible du choléra en métropole ? Je crois que ça vous paraîtrait totalement surréaliste. Oui. En fait, le choléra est revenu à Mayotte. Et alors attention, hein, le choléra, je le dis, c'est pas une maladie tropicale. Hein. C'est une maladie qui est liée, en fait, à des problèmes d'eau stagnante ou de cadavres d'animaux ou humains, ou de choses comme ça, qui sont mal conservés ou pas, ou qui sointent, des choses comme ça. Donc le choléra, en fait, c'est une maladie qui peut arriver n'importe où dans le monde. Voilà. Mais théoriquement, quand tout va bien, elle n'apparaît pas, parce que c'est lié à l'hygiène et à l'accès aux égouts, tout ça. Donc on voit que Mayotte a été largement laissée de côté. En fait, depuis plus de 40 ans, Mayotte est laissée pour compte. Les moyens ne sont pas mis pour moderniser l'île, sauf pour les plus riches, je précise, ou les touristes, et ni pour la sécuriser. Abri contre les cyclones, construction prévue pour tenir en cas de catastrophe, tout ça. Alors, il y avait plein de plans qui ont été mis sur la table, mais jamais financés.
Donc, c'est étonnant.
Ouais, marrant. Ouais. Pourtant, depuis 40 ans, on sait que si la fréquence ne change pas, la puissance des cyclones est de plus en plus forte du fait du dérèglement climatique et du réchauffement des océans. Ça, c'est documenté. Donc, tout le monde savait, dans les hautes sphères, qu'un tel drame allait arriver, mais encore une fois, rien n'a été fait en conséquence. Alors, je renvoie à la petite phrase de Darmanin et Retailleau, qui disait que quand les habitats sont détruits, les gens y repartent d'eux-mêmes. Qui a eu l'idée de se dire que c'était pas si grave qu'ils soient détruits par un cyclone, il n'y a pas des kilomètres. Voilà, ça c'est moi qui le dis. Donc on voit un mépris social, mépris de classe, racisme, vision coloniale, tout ça est venu amplifier en fait le drame qu'a subi l'île de Mayotte. Mais ce que nous voyons là, c'est avant tout un drame de la pauvreté, pauvreté entretenue depuis des années par des choix politiques dégueulasses, tout simplement. Dans les témoignages qu'on a pu voir, la remarque est faite. Les plus riches ont été peu touchés, car dans des quartiers prévus pour les chocs, et d'ailleurs, la remarque qui a été faite, c'est que le commissariat n'a pas été touché. C'est marrant, il était construit aux normes, lui. Voilà. Les métropolitains, eux, qui étaient là, ont été évacués par l'armée. Et donc, on laisse les plus pauvres dans la merde, tout simplement. Alors, pas de prévision. Bon, ok, ça, on a fait un peu un point sur... j'ai fait un peu un point sur ce qu'il y avait avant. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Les sans doute milliers de morts auraient donc pu être en grande partie évitées si Mayotte n'avait pas été traitée depuis des années comme un sous-territoire de la République. Si on avait pris la mesure des besoins et mis les moyens pour réaliser et viabiliser les infrastructures de l'île. Le manque d'eau actuel n'est pas lié qu'au fait que le cyclone a endommagé les installations, mais bien parce que ces installations étaient déjà en nombre insuffisant avant la catastrophe, et non construite selon des normes prévues, comme ça peut l'être au Japon, par exemple. Je vous invite à chercher sur Internet, vous verrez, il y a un expert japonais qui est un expert des typhons. Alors, je rappelle que typhon, c'est le nom des cyclones au Japon, qui hallucine de voir qu'en fait, il y a des cuves ouvertes. Il dit, bah, nous, au Japon, on a fermé les cuves, vous voyez, comme il y a des cyclones, des typhons, c'est logique, vous voyez. Bon, et lui, il dit, mais pourquoi les cuves sont ouvertes, vous voyez. Donc, en fait, on voit que, oui, ça n'a pas été réfléchi. C'est pas un problème de, juste de vent et de, voilà, même si ça aurait ralenti sans doute les choses. Mais là, ça, c'était pas prévu pour, donc ça a d'autant plus détérioré. Pareil pour l'électricité, hein, qui a été faite et acheminée, comme si la zone ne subissait jamais de grand vent. Mmh. Un exemple. Il n'y avait que 1% des lignes électriques enterrées à Mayotte pour les hôtels de luxe.
Pardon, oui.
Bah oui, mais.
Non, pardon, je ris, mais c'est.
Il y a des réalités.
C'est juste que voilà. C'est hyper parlant.
Mais comment on peut mettre. Enfin, moi, je suis pas expert en électricité, mais je me dis, accrocher des câbles dans l'air sur des poteaux quand on s'attend à des coups de vent à 250 km/h, il faut être optimiste. C'est un petit peu, voilà. Bon. Bah ouais,
oui, mais au final, c'est juste qu'il y a des doubles standards, quoi.
Ah oui, en plus, il y a un double standard.
Parce que si ça arrive à être fait, si c'est pensé à être fait pour les hôtels, etc., ça démontre bien qu'on sait qu'il faut le faire parce
mais
que
on
ça...
l'a pas fait ailleurs.
Mais on l'a délibérément pas fait ailleurs.
Très clairement. En fait, ces choix, hein, sont souvent cyniques et ne doivent pas se reproduire, de fait, maintenant. L'île est à reconstruire et ne doit pas l'être selon les mêmes normes qu'avant, parce que sinon, même normes, même problème. Hein. Et avant cela, il va falloir sécuriser les choses, retrouver les corps, déjà. Alors, ça peut paraître très, très cynique, ce que je dis, mais si on veut éviter, justement, des épidémies, il faut retrouver les corps, c'est important. Savoir aussi où ils ont pu être enterrés. Parce que la tradition musulmane impose un enterrement dans les 24 heures et beaucoup de familles, en fait, bah, face au fait qu'il n'y avait aucun secours qui arrivait autre, ont enterré eux-mêmes leurs morts pour qu'ils respectent la tradition. Là, encore une fois, j'ai entendu des politiques dire que c'était pas normal. C'est une tradition. Je veux dire, c'est pas, voilà, c'est pas plus idiot que d'autres traditions. C'est pas le problème. Le problème, c'est que maintenant, il faut qu'on arrive à savoir où se trouvent les corps pour essayer de faire en sorte de vérifier qu'il n'y ait pas de problème sanitaire. Il faut aussi vacciner les populations largement contre le choléra et toutes les maladies connues qui pourraient advenir du fait de l'état de l'île. Voilà. Et ce, qu'elles aient ou non des papiers, ces personnes. Parce que là, aujourd'hui, on entend des témoignages de gens qui disent qu'ils vont chercher de l'eau et on leur demande s'ils ont leurs papiers. Et même les Mahorais qui sont français et qui ont leurs papiers disent, mais oui, les papiers sont partis avec le cyclone, quoi. Ils sont pas restés. Ça, la carte d'identité, elle n'est pas restée accrochée comme ça. Voilà, non, il est parti avec. Hein. Donc, voilà, c'est juste surréaliste. Cette gestion, elle est complètement folle, quoi. Là aussi, hein, la gestion actuelle, qui, selon encore des témoignages, est axée donc en priorité sur les gens ayant la nationalité française, est complètement contre-productive et dangereuse. Elle va augmenter les risques de décès et de maladies au lieu de les éviter. Oui, parce qu'il y a des gens qui habitaient dans les bidonvilles qui ont peur d'aller avec leurs enfants à l'hôpital parce qu'ils disent, bah, si je laisse mon enfant blessé à l'hôpital, on ne me le rendra pas. Mmh. Et donc, du coup, oui, ça risque de voir des enfants mourir de gangrène, de septicémie, de maladies diverses et variées, de manque d'eau, de manque de nourriture, simplement parce que les gens ont peur. Et ça, c'est pas acceptable. Il faut donc, dès maintenant, dire et décréter que tout le monde sera soigné et sans question. Mais ça, il faut que les autorités le disent. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de tourner autour du pot. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un président en bras de chemise qui sermonne la foule, mais qui n'est pas capable de dire on assurera la sécurité sanitaire de toutes les personnes qui en ont besoin. Parce que sinon, c'est qu'on a encore une vision très très cynique qui est de dire on va laisser mourir les personnes sans papier. C'est ça l'idée.
Bah, c'est-à-dire que c'est quand même le même Premier ministre ministre de l'Intérieur,
déjà en Méditerranée,
qui avait déjà dit qu'il voulait revoir l'AME,
ouais, tout à fait.
Qui arrivait sur l'île de Mayotte parle d'immigration. Donc vraiment, malheureusement, j'ai bien l'impression que leur premier souci n'est absolument pas le bien-être de chacune et chacun qui est sur ce caillou, quoi. Parce que
c'est fou, parce que moi j'ai vu les témoignages de médecins qui sont sur place, ouais, et qui expliquent qu'ils ont une peur bleue d'un déclenchement épidémique, parce qu'ils disent, si on fait rien, si on laisse des gens ne pas se soigner, s'il y a des cadavres en putréfaction partout, ils disent on va avoir une pandémie ou une épidémie d'une violence qu'on n'imagine pas. Oui.
Laquelle, en plus, ils ne seront pas préparés du tout.
Mais non,
parce que tu t'es complètement.
Il faut voir le temps qu'a mis l'hôpital de campagne à arriver, quoi. Je veux dire, voilà. Donc il faut au contraire, en réalité, mettre en place en local les moyens et apporter les connaissances nécessaires pour que l'ensemble des Mahorais puissent vivre dignement dans des logements sécurisés. Ça, c'est le plus urgent. Mettre en place aussi les abris nécessaires, parce qu'encore une fois, il n'y avait pas assez d'abris anticyclones dans une zone de cyclone. Oui, ça peut paraître bête, mais moi, ça, je ris, mais c'est d'énervement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, On sait qu'il y a des cyclones dans cette région. Bah, on fait ce qu'il faut, on met des abris pour tout le monde. Enfin, voilà.
Oui, parce que même, allez, même sans compter les personnes qui n'auraient pas les bons papiers, il n'y a de toute façon pas assez.
Ah, mais il n'y en avait pas assez, tout simplement.
Pour qui que ce soit,
ah,
en fait.
Ah,
donc, même dans leur logique d'État, etc., qui ne veut pas de son pape, même là, ils ne sont pas à la hauteur.
Ah non, non.
Donc finalement, non, c'était... Oui, c'est vraiment...
On a laissé cette île pourrir sur pied. C'est,
oui,
c'est horrible
ça.
Ce que je dis, mais encore une fois, je ne parle pas des habitants. Je parle des conditions dans lesquelles on a laissé les habitants.
Et c'est là où on comprend encore mieux pourquoi le ministre de l'Intérieur attire le regard sur l'immigration,
bah oui,
pour ne surtout pas qu'on regarde tout ce qui n'allait pas déjà avant et qui n'est pas du tout du fait des personnes qui n'ont pas les bons papiers. Quoi.
Bah, clairement. Et en tout cas, il est important que cela... Alors ça, je reprends, je les salue d'ailleurs, les camarades de la CGT Mayotte qui ont fait un communiqué. Donc ils expliquaient qu'il est important que cela soit fait au plus proche et avec les populations de l'île. Mmh. Toutes les populations pour sortir de l'engrenage terrible du « eux contre nous » sur lequel surfe un État trop content de pouvoir diviser pour mieux régner. C'est deux. Donc je trouvais la phrase magnifique, je la reprends. Voilà, et je pense qu'ils ont raison. C'est-à-dire que c'est aussi une opportunité, peut-être aujourd'hui, de ressouder des liens là où ils étaient distendus jusqu'à maintenant. En fait, si le cyclone avait touché par exemple Paris ou l'Île-de-France, personne n'aurait compris une telle lenteur dans les moyens déployés. Ni des déclarations stigmatisantes d'un président qui serait arrivé au milieu de la place de la Concorde en disant « Hey, bah, si t'étais pas en France, mon gars,
ce serait pire, hein.
tu verrais hein. » qui est hallucinant. Ni l'idée qu'on puisse se dire qu'on laissera l'après se faire comme on peut, hein, sans planification, sans rien. Alors, juste comme ça, je le dis, le Premier ministre actuel, il est l'ancien commissaire au plan.
Mmh.
Voilà. C'est-à-dire que c'est le gars qui est censé planifier.
Voilà. Non, c'est pas vraiment ce qu'il planifie.
C'est pas ce qu'il planifie, mais a priori, il avait pas planifié l'idée qu'il fallait que Mayotte, ça aille mieux. Voilà. Ouais. Pourquoi devrions-nous finalement accepter pour Mayotte ce qu'on n'accepterait pas pour d'autres territoires français, ou pas français d'ailleurs, mais en tout cas, dans l'occurrence, c'est un département français. Donc voilà. Et on peut se surprendre hein, d'ailleurs du peu de place que Mayotte prend dans les débats politiques en ce moment ou dans les médias. Ouais. Moi, je suis très surpris de voir assez peu de politiques, même de gauche, parler de Mayotte et de parler de ce qui s'y passe et intervenir sur Mayotte alors que c'est quand même plutôt important, il me semble, quand même.
Ah bah, c'est-à-dire qu'une cathédrale a brûlé, ça nous a pris des semaines pour nous en défaire.
C'est ça.
Là, on parle quand même de gens qui sont morts, qui sont dans une situation de détresse absolue. Mais en même temps, il y a la magie de Noël, quoi. Donc, là, il y a des infos qui viennent s'entrechoquer, quoi.
Et puis, c'est comme si là aussi, en fait, une vision finalement coloniale était encore bien présente, dans métropole, en tout cas, et on parle pas vraiment de ce qui se passe dans les Outre-mer. Et c'est pas, voilà, pour Mayotte et pour d'autres endroits. Hein, mais on voit bien qu'il y a quand même cette problématique-là et qu'elle est à dénoncer aussi. C'est-à-dire que notre façon de voir les choses, hein, elle est problématique, c'est-à-dire quoi ? C'est loin, hein, on en parle peu, finalement. Et puis quand on pense finalement qu'on peut avoir 20 minutes sur 2 cm de neige sur l'Hexagone dans les JT, et que là on a quand même une région, enfin un département français rasé, et même s'il n'était pas français, encore une fois, il faudrait en parler quand même. Mais je veux dire, en plus, là, en l'occurrence, c'est administré par la France. Donc rasé avec sans doute des milliers de morts, et on devrait avoir l'ouverture de tous les JT, tous les jours, sur la situation à Mayotte, ce qui s'y passe, pourquoi, comment, qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce que les choses sont bien faites, des enquêtes qui seraient faites sur est-ce que les secours arrivent au bon endroit, enfin des choses comme ça, et on voit bien que c'est pas fait, et c'est réellement problématique. Encore une fois, c'est une vision post-coloniale, coloniale, ces territoires loin, hein, on s'en fout un peu, quoi, quand même, je veux dire, c'est un peu le truc. Voilà.
En même temps, on a déjà des exemples précédents, par exemple, si je pense au chlordécone,
oui.
Tout le monde s'en tamponne fondamentalement quand même. Hein.
Oui, mais enfin que tout le monde, je veux dire qu'une majorité de gens.
Oui, qu'une majorité. Oui.
Le problème que j'ai moi, et je le redis, c'est de voir finalement tous les milieux politiques progressistes, je vais faire un truc très large, ne pas s'emparer en fait, à part, et je le redis, deux syndicats que je veux saluer, la CGT Sud, qui ont fait un énorme boulot sur Mayotte et qui essayent d'alerter et qui essayent de dire mais on peut pas les laisser comme ça, et je trouve ils font vraiment... Bah, ils font ce que tous les politiques progressistes devraient faire. Mmh. Et en fait, on voit que c'est pas fait. Et moi, ça m'interroge. Je me dis, mais pourquoi est-ce que d'un seul coup, et je vais être cynique dans ce que je vais dire là, tout de suite, mais les écolos, c'est le moment de vous saisir du truc, ne serait-ce que pour montrer votre solidarité, mais aussi pour dire, vous voyez que le dérèglement climatique existe, et ce que ça fait, ça fait ça. Donc en fait, il y a en plus une logique politique à prendre, mais elle est même pas prise. Et en fait, d'un seul coup, pareil, les partis de gauche en général qui nous parlent de lutte des classes matin, midi et soir, qui nous expliquent tout ça, et c'est très bien, Mais là, vous avez un exemple concret de ce que fait le mépris de classe, des milliers de morts que ça fait, des gens qui se retrouvent sans rien. C'est là, c'est sous vos yeux. Donc pourquoi vous ne prenez pas la mesure de ce qui se passe et surtout, ben, pourquoi vous ne dénoncez pas plus? Est-ce que vous attendez de savoir si vous aurez une place au gouvernement ou pas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça me fatigue que Mayotte passe après les pérégrinations de Beyrouth ou de savoir s'il va neiger à Noël ou si le foie gras sera bon. Voilà. Mayotte n'a clairement pas besoin de prières et de compassion, très clairement, mais ça a besoin d'entraide et d'actions politiques, et les actions politiques c'est au sens large, donc il serait bien qu'on soit à la hauteur du moment, ça changera un peu, parce que là on a quand même des milliers de personnes, des centaines de milliers de personnes qui vivent dans un dénuement total sur un territoire français, 101e département de France, et qu'on abandonne très tranquillement, sans vraiment se poser de questions. Donc voilà, c'est aussi une réalité. Et encore une fois, ce serait pas en France que ce serait aussi à dénoncer. Mais là, c'est d'autant plus dénonçable parce que là, on a une action directe, nous, parce qu'on est français. Mmh. Et que donc, du coup, c'est nos politiques qui font de la merde. Donc voilà. Et là, c'est, là on peut pas dire, oui, mais on peut pas demander à Macron d'arrêter la guerre là-bas parce que c'est pas lui qui fait la guerre. Non, mais par contre, Mayotte, c'est lui. Mmh. Et c'est aussi Beyrouth. Et c'est aussi l'État français. Donc voilà.
Ouais, bon, on passe à la ZIC.
Bah ouais, histoire de je sais pas, de se remettre un peu. Je sais pas comment dire ça.
Oui. Allons-y.
Treat myself with gasoline. The fire grows inside my skin. No fantasy, no in-betweens. Don't tell me no lies. Finger on the trigger, letting it all out. Bursting with desire.
Dans la causerie au 102.2 sur radiocanu.org ou d'ailleurs sur tout autre moyen d'écoute où tu nous entends, et tant mieux, coucou. Voilà. et sinon, on vient d'écouter Gezafelstein avec Hard Dreams. Et la bonne nouvelle, c'est que le petit Frenchie Gezafelstein a travaillé avec Lady Gaga à son prochain album. Voilà, c'était la minute fan.
Donc, oui, ça dépend pour qui est la bonne nouvelle, mais.
Pour moi.
Oui,
excellente nouvelle.
Je plaisante.
Voilà, c'est tout. Bon, d'ailleurs, c'est à toi de nous parler, Jean-Yves. Et tu avais envie de nous parler d'un organisme que peu de gens connaissent, mais qui ne fait pas grand-chose sur la ville de Lyon.
Oui, effectivement. Ce soir, j'ai eu envie de. de partager avec vous les éléments d'une enquête du média Disclose. On en a déjà parlé de ce média, Fab, je crois, avait déjà fait aussi un sujet au moins en partant d'un article de ce média. Voire plus.
Médias indépendants.
Oui, médias indépendants, etc. Qui donc, cette enquête porte sur la situation des femmes vulnérables, entendues comme malades, enceintes ou avec des enfants en bas âge, à la rue, dans la région lyonnaise, et pour qui rien n'est fait, en particulier par celui qui est censé les protéger, à savoir l'État et son OFI. Alors, OF2I, c'est l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Alors, à quoi sert l'OFI officiellement ? Alors, il est sous tutelle du ministère de l'Intérieur. Cet établissement a pour obligation légale de proposer des conditions matérielles d'accueil à chaque demandeur d'asile, à savoir le versement d'une allocation et l'obtention d'un hébergement parmi les 120 000 places dans les structures gérées par des associations telles que Forum Réfugiés ou France Terre d'Asile.
En fait, il fait le lien entre l'État et les associations.
Oui, c'est ça. Des agents administratifs s'entretiennent avec chaque demandeur et chaque demandeuse pour évaluer leurs besoins et leur degré de vulnérabilité. Cette évaluation doit ensuite permettre d'identifier les personnes à aider en priorité. Ok.
C'est eux aussi qui disent si un enfant est majeur ou pas.
Et c'est ça. Je crois que c'est aussi l'OFI.
D'accord. Ok.
Elle vise en particulier les mineurs, les parents isolés, les femmes enceintes, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes âgées, handicapées ou atteintes de maladies graves. Voilà donc pour l'OFI. Nous avons ici évidemment déjà parlé de la situation, par exemple des mineurs isolés. Nous en avions même accueilli dans la causerie pour causer de leur situation, de leur vie et de leur parcours. Et nous savons bien que les services de l'État ne sont pas les plus utiles ni performants quant à la protection des personnes à la rue, qu'elles soient avec ou sans papier, demandeurs d'asile ou non, qu'on soit clair. Nous savons aussi que pour certains de ces services, nous pourrions penser qu'ils sont plutôt services de la haine et de l'exclusion. Une pensée, petit big up pour les flics qui on a pu voir détruire des tentes, frapper des individus, plutôt qu'au service de l'entraide et de la solidarité. Alors, je ne vais pas jouer les étonnés, pas pour rien qu'ici, on est plutôt du genre à penser que l'État fait partie du problème plutôt qu'il ne soit une partie de la solution. Bon, ça n'engage que nous. Alors, mais là, où nous pouvions avoir des soupçons ou des preuves un petit peu parcellaires, l'enquête de Disclose, en fait, apporte des preuves factuelles que tout cela est une volonté et non une erreur, un égarement au sujet d'une ou deux personnes. Le média, d'ailleurs, a été destinataire d'un fichier nommé « Signalement », rédigé par des agents du bureau lyonnais de l'OFI, qui dresse donc ce fichier, la liste des demandeurs d'asile inscrits dans 4 départements, l'Ain, l'Ardèche, la Loire et le Rhône.
On peut saluer ces lanceurs d'alerte.
Oui, on peut. Très bien.
Non, mais parce que c'est courageux. De le faire, parce que du coup,
clairement,
ça permet de mettre en lumière ce qui veut être caché.
Clairement. Et ce fichier, en fait, il était pour toutes ces personnes qui étaient en attente d'un hébergement entre janvier 2023 et juillet 2024. Donc, on ne parle pas d'une affaire qui daterait d'il y a 10 ans. Donc, d'après ce document, on compte 1306 demandeurs d'asile, toujours en attente d'un logement, dont 467 femmes isolées. Alors, dans le fichier, toujours, aux côtés d'informations confidentielles, se trouve une colonne commentaires. Cette colonne, en fait, elle contient les alertes émises par des assistants et des assistantes sociales, des membres d'associations d'aide aux migrants et migrantes, ou des riverains témoins d'une grande précarité. Donc, l'OFI connaît pertinemment la situation des personnes. Ça s'appellerait, je me dis, est-ce que ça s'appellerait pas non-assistance à personne en danger, ça, finalement?
Bah, un petit peu, quand même.
Ouais, mais bon, là, c'est l'État, et lui, il a tous les droits. Ben oui, parce que son premier droit, quand même, c'est de bafouer le droit. Ouais, parce que, bon, c'est quand même lui le maître, donc il décide, et on est censé juste appliquer ce que lui, ce cher État protecteur, décide. Alors, quelques exemples qu'on trouve dans l'article, là, vraiment, je vous donne quasiment tous les témoignages qu'on peut avoir et les exemples qui sont donnés par Disclose, et je vous invite évidemment à aller lire l'article ou le partager
Et soutenir Disclose.
Et soutenir aussi Disclose, t'as raison, ouais. Ça fait partie de ces médias indépendants dont on a follement besoin. Prenons le cas de cette femme de 67 ans, Anna, d'origine angolaise, arrivée en France en mai 2023, après avoir fui les persécutions infligées par les autorités du pays. Entendez-la, arrêtée, frappée, torturée. Hein. Elle a des marques, elle a une jambe gonflée, elle a un gros sparadrap sous la gorge, je crois. Donc, âgée, malade, femme isolée. Et pourtant, ce n'est pas suffisant hein, pour jouir des droits selon l'OFI. Et elle dort donc à la rue depuis mai 2023. Merci l'OFI, merci l'État. Il y a aussi l'histoire de Sita, qui s'est présentée, elle, en mars 2023 au guichet des demandes d'asile et qui est restée sans abri avec sa fille de 3 ans. 3 ans, ok ? Pendant au moins 8 mois. Merci l'État, merci l'OFI, évidemment. Le cas de Bintou, hein, elle, 28 ans, agressée à la gare Perrache, où elle dort sous une tente. Et selon le signalement d'un travailleur social transmis fin 2023, elle était enceinte de quelques semaines et présentait de graves problèmes respiratoires. 2 mois plus tard, elle dormait toujours à la rue. Merci l'État, merci l'OFI, tout ça. Hein, la situation aussi d'Ida GT, atteinte d'un cancer, et de sa fille, 13 ans, qui a des difficultés à respirer à cause d'un kyste à la gorge, elle n'a pas plus ému l'antenne lyonnaise de l'OFI. Hein. Destinataire au printemps 2024 d'alertes transmises par des travailleurs sociaux et par son époux aussi. Et selon les informations dont dispose le média, la famille a été déboutée de sa demande d'asile en mai 2024. Elle est pas belle la France, hein? Ouais. C'est ce qu'on vous dit souvent, hein. Le RN n'a pas besoin d'être au pouvoir, ses idées sont déjà largement en application. Et même lorsqu'une femme hein, est contrainte de vivre avec un potentiel agresseur sexuel, sa situation n'est toujours pas prise en compte. Et c'est le cas par exemple d'Amara. Alors je précise, hein, tous les prénoms là qui sont donnés sont des prénoms changés, ouais. Hein, d'emprunt, on va
évidemment.
Dire. Donc Amara, elle a été accueillie par un couple de compatriotes guinéens. Le mari, hein, je cite, tenterait d'abuser d'elle en la menaçant de la mettre dehors s'il ne vient pas dormir avec lui. Elle a résisté jusqu'ici, mais elle a très peur de cet homme et des répercussions si elle parle. C'est ce que rapporte une assistante sociale dans un signalement transmis le 24 mars 2023. Plus d'un an après, en mai 2024, une 10e alerte est envoyée. Cette fois, un travailleur social s'alarme qu'elle soit toujours sans solution d'hébergement pérenne alors qu'elle a à sa charge un bébé de 4 mois. Ok ? Merci l'État, merci l'OFI, évidemment, de ne rien faire parce que c'est à ça que vous servez. Il y a aussi Aïssat, hein, qui elle a 24 ans, elle était enceinte d'un peu plus de 3 mois lors de son passage dans les bureaux de l'OFI le 2 octobre 2023. Sa situation a fait l'objet de 6 signalements. Hein, encore une fois, on ne parle pas d'un signalement qui serait passé à la trappe. Vous voyez, là, on en est pour Aïssata, pour le 6e signalement. Alors, tous réclament une intervention d'urgence parce que cette femme d'origine guinéenne est aujourd'hui mère d'un bébé de 9 mois, pardon, prénommé Kala, née prématurée et atteinte d'une malformation physique. Alors, après avoir passé plusieurs semaines dans la rue, puis 3 mois dans un squat et quelques semaines chez un inconnu, elle a emménagé en janvier 2024 dans une petite chambre d'un appart-hôtel dans le centre-ville de Lyon. Alors on peut se dire merci l'OFI. Non. Là, l'OFI n'est absolument pour rien parce que dans le cas d'Aïssata, en fait, c'est la métropole lyonnaise. Qui a fait que sa situation s'est améliorée. Fait amusant, entre guillemets, le 11 décembre de cette année, Disclose a interrogé l'OFI hein, de Lyon sur le cas précis là, d'Aïssata, hein, donc avec cet enfant qui a 9 mois, qui est mal formé, qui a une malformation physique, etc. Et là, c'est fou, hein. Le surlendemain, Aïssata s'est vu recevoir une proposition pour un hébergement à Rouen. Amusant, comme je vous disais. Merci l'OFI, tout ça. Hein. Je vous laisse répéter tout ça en cœur, évidemment. N'allons pas croire que ce mépris ne soit le fait que de la branche lyonnaise de l'OFI. On pourrait se dire, là encore, Alors ok, c'est pas juste 2-3 cas, mais bon, allez, c'est que lyonnais. Non, rassurez-vous, l'office est vraiment jusqu'au bout, quoi. Hein. Alors non, parce que le problème est bien plus vaste, hein, et bien plus général qu'une antenne locale qui ne serait dirigée par des, qui serait dirigée par des incapables. Et cela a pu être démontré par des jugements, en fait, hein, suite à des plaintes d'un avocat parisien qui bosse beaucoup là-dessus et qui, depuis avril 2022, a déposé 79 référés devant le tribunal administratif pour contraindre l'OFI à loger des demandeurs d'asile en situation de vulnérabilité.
On peut remercier cet avocat.
C'est ça. Autrement dit, hein, il a fait en sorte que l'administration chargée de leur accueil se conforme
au droit.
À la loi.
Au droit, c'est
fou, hein, quand même, cet État qui ne respecte pas ses propres lois. Et donc, en 3 ans, hein, quand même, cet avocat, donc je vais quand même le nommer, hein, Sami Djemaoun, il a obtenu pas moins de 65 condamnations de l'OFI. Sur 79 référés.
Ah, mais ce qui ne veut pas dire que les autres ne sont pas...
Ah non, non, non.
C'est-à-dire que les autres ne sont peut-être pas encore jugés.
Oh, oui, mais je veux dire, sur 79,
ouais,
même pas... si, admettons,
il ouais,
y en a quand même 65 qui ont été...
Ça démontre quand même que, oui, il y a un vrai problème.
Oui, c'est ça.
Global.
C'est ça. Et sur Paris, justement, hein, le média Disclose nous donne quelques exemples. Un couple dormant à la rue avec un nourrisson de 2 mois ne constituait pas une situation d'urgence.
Bah non.
Alors c'est là où on peut continuer quand même de se demander c'est quoi l'urgence en fait.
Ouais.
Faudrait peut-être que
peut-être qu'en fait ils lisent les trucs des anti-vax et ils se disent que les gamins plus on les laisse dehors et plus ils sont forts.
Ah oui, c'est peut-être ça.
Non pardon, je fais de l'humour noir, mais c'est je veux dire, en fait il y a un moment, moi je ne comprends même pas, mais je l'ai déjà dit ici, hein, moi je n'arrive pas à comprendre que dans un pays riche, 6e puissance mondiale comme la France, on ait déjà des gens qui dorment dehors, c'est déjà odieux, mais qu'on ait en plus des enfants qui dorment dehors. Et je veux dire, à un moment donné, la protection des enfants, ça devrait être l'alpha et l'oméga de toute politique publique. On devrait se dire, en fait, ouais, il faut protéger les gosses, c'est la base. Et en fait, là, on voit que, ben, une fois de plus, et en plus, avec des... Moi, j'ai lu l'enquête de Disclose, parce que je suis soutien de Disclose et que j'aime beaucoup ce média, ils démontrent dans l'enquête que c'est plus que récurrent. C'est-à-dire que c'est habituel, c'est-à-dire qu'en fait c'est un mode de gestion et comme tu le dis, on se demande comment, ben, pour ceux qui n'ont jamais mis les pieds à Paris, mais si un jour vous mettez les pieds à Paris, vous verrez que Paris c'est une mégapole, c'est-à-dire en fait c'est pas une ville vivable déjà pour les gens qui y vivent, mais alors pour les gens qui vivent dehors c'est l'enfer, c'est-à-dire qu'en fait il y a de la violence, il y a aussi le froid l'hiver, enfin c'est pas une ville très 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 voilà comme Lyon, hein, d'ailleurs, et en fait là on nous dit un enfant de 2 mois il peut bien vite dormir dehors.
Oui.
Et je veux dire c'est juste dingue, enfin moi ça me rend vraiment,
c'est ça,
vraiment dingue, quoi.
Mais rassure-toi ou énerve-toi encore plus, hein. Une mère et sa fille d'un mois et demi obligées de trouver refuge sur un chantier, c'est pas urgent non plus, ouais, selon l'OFI. Hein. Et toujours à Paris, hein, la direction de l'OFI est allée jusqu'à mentir en affirmant qu'un couple d'Ivoiriens qui dormait à la rue avec un bébé de 10 mois n'avait pas transmis les documents pour leur demande d'hébergement.
Bah oui.
Le média a pu voir accéder au dossier et en fait, il dit clairement c'est un mensonge. C'est vraiment un pur mensonge. Bref, hein, cette énième démonstration que les directions de ces structures étatiques sont là avant tout pour protéger l'État, pour appliquer sa politique du moins 10 ans, et non pas pour protéger celles et ceux qui en auraient réellement besoin. Patrie des droits humains, mon cul. C'est ça la réalité. Hein, c'est bien beau les romans nationaux de la grande France, patrie des droits de l'homme. Ouais, c'est bizarre, faut quand même que les humains rentrent dans pas mal de petites cases pour qu'ils soient vraiment reconnus comme des semblables. Hein. C'est quand même ça la réalité. Alors soutien évidemment, hein, pour finir, à toutes celles et ceux qui vivent ces situations, qui doivent se battre tous les jours pour ne savoir que où ils pourront potentiellement dormir, en sachant une des témoignantes, pardon, elle dit tous les matins j'appelle le 115 et peut-être une fois par semaine, maxi, elle peut être hébergée. Enfin, je veux dire, c'est vraiment ça aussi la réalité, quoi. Donc évidemment, soutien à toutes celles et ceux qui vivent cette situation, mais aussi à toutes celles et ceux qui dénoncent cette situation et qui, comme là, ont fait sortir des documents. Vous voyez, protection des sources, des journalistes, etc. Protection des lanceurs et des lanceuses d'alerte. Là, ça a du sens encore une fois, parce que justement, si ça ne sortait pas, tout le monde serait là à se dire « Ah non, mais l'OTA et l'OFI font vraiment tout ce qu'il faut, ils font vraiment leur maximum. » Non, pas du tout. Mais pas du tout, c'est une honte en fait. Et évidemment aussi un soutien à toutes celles et ceux qui essayent de pallier à ce fonctionnement dégueulasse en apportant soutien aux premiers concernés et aux premières concernées, les X collectifs d'aide aux sans-papes, etc., femmes à la rue, etc., etc. Je pourrais pas toutes les nommer parce que je les connais pas toutes, les assos. Mais voilà, parce qu'elle, encore une fois, là aussi, on parle aussi... Enfin, faut pas oublier, je peux prendre l'exemple de Utopia 56, je crois... 56,
Utopia 56.
Ouais. 56, je crois, qui est, par exemple, pas sur Lyon, mais qui est sur le nord de la France, qui, dont les militants sont régulièrement emmerdés par les services de police, les services de l'État, parce qu'ils aident des humains en détresse. Ben ouais. C'est ça, la vraie face de l'État. Tant que t'as les bons papiers... T'inquiète, ça devrait à peu près aller. Encore, ça dépend. Si t'es noir ou pas tout à fait blanc, ça ira moins bien. Mais hein, l'État est toujours là pour te protéger. Et quand vous n'en avez pas du tout de papier, eh ben, c'est là où ça bat, où se montre le vrai visage de l'État. C'est-à-dire un État violent, raciste, qui ne reconnaît que les siens grâce à des soi-disant papiers. Et ça se félicite d'être la patrie des droits de l'homme. Encore une fois, c'est une falsification de tout. C'est un roman national. Dans les faits, cet État est comme tous les autres. Une chose qu'on pourrait espérer un jour se passer, dont on pourrait un jour espérer se passer. Mmh. Hein, on va dire ça gentiment et poliment.
Et moi,
mais pas, attention, alors pardon, je précise, se passer, mais pas à la sauce libertarienne. Hein.
Ah, non, non.
On est d'accord, hein. Ça se fera par la solidarité, l'entraide, l'accès à toutes et tous, à des choses...
Aux besoins
de chacun et chacune.
Oui, moi je voulais juste te dire un truc que je sais parfaitement illégal, mais que je vais dire quand même. Je vais saluer ici tous ceux et toutes celles qui ouvrent des portes, des fenêtres, qui ouvrent des squats, qui font en sorte que des espaces qui laissaient vides puissent servir à héberger des gens qui en ont besoin, parce que il y a des gens à qui faut tirer leur chapeau et voilà, ils font partie de ces des gens à titre personnel que j'admire. Et si ça vous emmerde que j'admire des gens qui hébergent d'autres personnes et qui ouvrent des squats pour que d'autres soient pas à la rue, et ben c'est que vous n'avez pas grand chose à foutre à écouter la causerie, donc faites donc autre chose à 22h.
Oui. Voilà. Et si vous ne trouvez pas normal ou que l'état des squats ne sont pas super, bah, dénoncez en premier lieu que l'État ne fasse rien.
Mais ouais.
Que les milliards dans les caisses des États ne servent à rien, si ce n'est à engrossir ceux qui sont déjà fat, c'est-à-dire le patronat, les actionnaires, etc. L'argent, il y en a plein dans cette sixième puissance économique.
Il y a 160 milliards d'euros par an qui sont donnés en aide aux entreprises, dont plus des deux tiers vont à des entreprises qui font des bénéfices. Donc, à un moment donné, il va falloir regarder, l'argent, il existe.
C'est ça, il y a des milliards qui vont pour la guerre.
Exactement. On a mis un milliard pour Notre-Dame de Paris aussi.
Oui,
Et juste quand même rappeler aussi quelque chose, il y a des millions de mètres carrés vides et pas que de bureaux. Parce qu'à chaque fois qu'on dit ça, on nous dit « Ah oui, mais c'est des bureaux », c'est pas vrai.
Non.
Il y a des millions de mètres carrés vides de logements aujourd'hui qui sont laissés vides pour la spéculation immobilière. Et ça, en fait, en réalité, c'est pas une problématique purement, on va dire, temporaire. C'est des choses qui existent dans le marché de l'immobilier.
Mais c'est le capitalisme.
Voilà, c'est le capitalisme, c'est quelque chose qu'on peut faire sauter. D'ailleurs, il y a plusieurs mairies qui ont réussi à faire ça en préemptant, en obligeant ou même en encadrant le prix des loyers, parce que vous savez, quand on encadre le prix des loyers, ça emmerde beaucoup les gens qui font de la spéculation, c'est vrai, et c'est pas suffisant, on le sait, hein, je suis pas en train de dire mais juste en fait à un moment donné de quoi loger de tout le monde, il y a.
Oui.
Voilà, il n'y a pas besoin de croire qu'il faut construire encore 50 000 immeubles ou je sais pas quoi, il y a déjà aujourd'hui. Donc en fait, ben comme tu l'as dit, c'est juste de la lâcheté et une gestion raciste de la situation.
Voilà. Et ben avec ceci, on va partir en petite musique. Allez.
Il regarde ses yeux pour prier. Il lui dit, on ne met pas sa tête ronde entre les mains. Tu ne mets pas ton couteau dans le cœur. Tu mets ton couteau dans la plaie. Un homme qui a peur du vide. Il a peur des loups et des chats. Et il veut mourir. Ce sont des coquelicots. Il lui dit, fais attention. Lui, il avance vers la forêt. Il faut une discussion. Le trappeur va vers son cheval. Lui, où lui parle. Il a peur de tout. Il a peur de rien. Il y a une dame à lunettes le ciel, la ville. Il va sur l'eau pour voir le jour se lever sur la Tamise. Il lève les voiles pour aller droit vers l'enfer qui surgit du passé. Ils arrivent à un endroit inconnu. Quelques-uns survivront. Qui se cache derrière ce masque en carton? Dans un regard qui est gravé à jamais. Il faut que je retrouve mes trous de mémoire.
Et vous êtes toujours à l'écoute de Radio Canu, c'est toujours le direct avec la causerie, comme presque tous les dimanches de 22h à 23h. Et nous venons d'écouter Astéréotypie.
Oui, parce que qui aurait pu écrire « Il faut que je retrouve mes trous de mémoire »
Ouais, j'adore, j'ai adoré cette fin. Enfin, pas que la fin, mais j'adore ça, « Il faut que je retrouve mes trous de mémoire ». Pardon, et le texte, la chanson, c'est « Texte sur les vivants », et c'est évidemment un autre extrait de leur dernier album « Patami. Oui. Et vraiment, si vous avez l'occasion d'aller les voir en concert, allez-y. C'est énergique, c'est barré, ça fait un bien absolument de dingue. Et ben, t'as une brève ou deux?
Deux brèves.
Allez.
Alors, première brève, comme j'ai parlé de Mayotte quand même en début d'émission, Je vais en reparler en fin d'émission pour vous dire qu'en fait, il y a le Secours Populaire, Médecins Sans Frontières et la Croix-Rouge qui s'unissent pour pouvoir envoyer le plus rapidement possible ce dont les Mahorais auraient besoin. Et pourquoi je vous parle de ces trois associations? Parce qu'elles se sont toutes les trois positionnées contre l'opération Umbunchu, parce qu'elles sont elles ont toujours dénoncé depuis des années les conditions qui étaient faites sur l'île de Mayotte, et que donc on ne peut pas vraiment les soupçonner, aucune des trois, d'avoir fermé les yeux sur les agissements de l'État français là-bas. Après, il y a d'autres collectifs, mais ça, je vous laisse libre de voix. Je vous donne ces trois-là parce que voilà, on sait qu'ils sont fiables et qu'on les connaît, surtout le Secours Populaire, et donc du coup, n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux. Ils ont ouvert soit des cagnottes pour pouvoir acheter là-bas sur place ce qu'il y a besoin ou autour de Mayotte, soit ils ont ouvert des collectes. Donc voilà, je vous invite à vraiment aller les rencontrer ou les aider. Voilà, ça c'était pour Mayotte. Et maintenant, complètement autre chose. Il y a une revue qui va apparaître à Lyon. Ouais. Alors vous savez, à la causerie, on aime bien les rues de Lyon. On les reçoit assez souvent. Clara, elle me regarde, elle me dit « Ah bah oui, c'est vrai, peut-être trop. » Non, je plaisante.
C'est l'épicerie séquentielle qui chapeaute les rues de Lyon.
C'est ça. Donc non, on plaisante, on les reçoit pas trop, c'était une blague. Donc en fait, ils ont eu l'idée de lancer une revue qui s'appellera « Rue des sciences » qui va paraître en 2025. Et donc, c'est l'épicerie séquentielle qui veut lancer fin 2025. Donc vous voyez, c'est pas tout de suite, mais voilà. Une nouvelle revue de vulgarisation de la recherche scientifique lyonnaise en bande dessinée. Alors en fait, c'est une revue annuelle qui fera 150 pages environ, baptisée Rue des sciences. Son contenu sera composé d'une dizaine d'explorations de laboratoires de la région lyonnaise pour découvrir, sous la forme de reportages dessinés, c'est-à-dire comme ils font dans les rues de Lyon, ce qui se passe dans ces lieux un peu mystérieux que sont ces labos de recherche. Voilà. D'autres articles dessinés, je lis l'affiche, excusez-moi, d'autres articles dessinés complémentaires viendront donc faire de la pédagogie sur différentes thématiques liées aux sciences en général. Par exemple, un truc que j'aimerais bien que les gens comprennent, c'est quoi la méthode scientifique? Comment est-ce qu'on extrait de l'ADN d'une cellule? Qu'est-ce qu'un biais scientifique? Comment fait-on une datation au carbone 14? Qu'est-ce que la méthode exploratoire en sciences humaines? Qui finance la recherche? Comment fonctionne un microscope à balayage électronique? Tout un tas de questions tout un tas de questions que je suis sûr que vous êtes déjà posées. Et au moins là, il y aura des réponses ou des pistes pour y répondre. Alors, ils sont accompagnés dans cette aventure par un comité scientifique qui est constitué du service communication du CNRS, de la direction sciences et sociétés de l'université Lyon 2 et de Pop Science. Alors, pour ceux qui connaissent pas Pop Science, moi je les salue parce que je les aime beaucoup. C'est ceux qui font
l'éducation populaire,
vulgarisation scientifique et l'éducation populaire auprès des jeunes et des moins jeunes, et qui régulièrement propose des ateliers où vous pouvez découvrir des trucs super cool. Voilà. Chaque BD sera l'occasion pour leurs lecteurs de visiter des laboratoires lyonnais, de faire connaissance avec les chercheurs qui y travaillent, de découvrir les travaux de recherche. Et cette dimension très concrète du reportage leur permettra d'aborder les sujets dans toute leur complexité et leur rigueur, sans chercher à édulcorer ni céder à la tentation du sensationnalisme. Et je trouve que c'est plutôt prometteur. Leur ambition est donc de rendre compte fidèlement, grâce à notre savoir-faire dans le domaine de la bande dessinée documentaire, si vous avez déjà lu Les Rues de Lyon, on peut pas le nier, de l'avancement de la recherche lyonnaise avec sérieux et surtout bonne humeur. Parce que c'est un des petits trucs quand même des rues de Lyon que j'aime bien, toujours un peu de la bonne humeur. Et donc voilà, et donc si vous voulez participer, parce qu'il faut
soutenir,
c'est l'idée, c'est d'acheter le premier numéro quasiment 8 mois avant, mais l'idée c'est
ça, parce qu'en même temps 150 pages et tout, c'est
voilà, c'est qu'ils puissent le faire. Donc là, je vous invite à aller sur la page Rue des Sciences, et bien sûr évidemment je n'ai pas ce qu'il faut, si c'est ça, c'est épiceriesequentielles.com/rue des sciences tout attaché.
De toute façon, vous allez sur le site de l'épicerie séquentielle, je pense que Rue des Sciences sera mis en avant.
Exactement.
Et vous pourrez facilement le trouver. Quoi.
Et on mettra le lien, je pense, ou on le mettra sur le blog demain pour que vous puissiez le trouver facilement. On est très fan de science, vous le savez, dans la causerie. Et moi, je suis très content, à titre personnel, mais je pense pas, je suis pas le seul, de voir arriver des outils de vulgarisation, parce qu'on a besoin aujourd'hui, dans notre société où l'esprit scientifique recule de plus en plus, de réexpliquer ce qu'est la science. J'ai encore pas, il y a pas longtemps, quelqu'un qui m'a écrit que le consensus scientifique, ça ne voulait rien dire. Et ben voilà, quand on en est là, c'est qu'il faut reprendre le béaba. Alors on va reprendre le béaba. Oui. C'est pas grave. Voilà.
Et ben très bien, c'est tout bon. Et ben on va juste faire les 2-3 rappels comme d'habitude en fin d'émission pour nous contacter ou nous écouter. Donc si vous voulez nous contacter, n'hésitez pas. Si vous êtes un collectif, une asso, des artistes, une artiste, un artiste, un écrivain, une autrice, tout ce que vous voulez, ou si vous voulez partager votre parcours de vie, etc. Vous savez que les portes de la causerie sont ouvertes. Donc vous nous écrivez un mail à lacausericanu@gmail.com, lacausericanu@gmail.com. Vous retrouvez évidemment cette émission comme toutes les précédentes, hein, plus de 540, sur le blog de l'émission, c'est à blogs.radiocanu.org/lacauserie, ou dans votre petit moteur de recherche, vous tapez La Causerie Radio Canu blog, vous devriez largement nous trouver. Et évidemment, on est toujours entendable sur les...
On est entendable, pas sur... écoutable, hein, on peut juste nous entendre.
Ouais, on n'est pas obligé de nous écouter, on peut juste nous entendre. Sur les différentes plateformes de podcasts, de musique, etc., etc. Là, encore une fois, vous tapez La Causerie Radio Canu et vous nous retrouverez avec notre joli petit logo. Et ben, je crois que j'ai tout dit. On se retrouve évidemment la semaine prochaine sur l'antenne de Radio Canu.
Peut-être qu'à 2 ou à 3, je ne sais plus.
On verra.
On verra.
Suspense.
Suspense.
Ah, on verra le 29 alors.
Et ben donc, nous rendez-vous la semaine prochaine. On se quitte en musique. Fab, t'annonces le titre?
Ouais, c'est Shed From The Body, c'est tout attaché, hein. Voilà, et c'est Mooring le titre, et si vous ne connaissez pas Shed From The Body, je vous invite vraiment à aller écouter, c'est beau, c'est planant mais parfois un peu sombre, mais c'est bien.
Yep. Et juste aussi, je viens d'y repenser, si vous aviez écouté Radio Canu avant qu'on prenne l'antenne, on a diffusé le jingle pour une soirée de soutien avec les prisonniers et les prisonnières, donc c'est le 24 décembre, soir où... Hein, plein de gens sont réunis, sauf qu'il y en a d'autres qui seront soit seuls à l'hôpital, soit seuls aussi dans la cellule de prison. Donc c'est de 20h à minuit, des messages aux prisonniers, des musiques à écouter, des... Voilà. Passer du temps ensemble pour celles et ceux qui seraient isolés. Ça sera évidemment sur l'antenne de Radio Canu, mais pas que, il y a je crois quasiment une dizaine de radios qui partagent
France,
cette soirée. C'est génial. Donc voilà, nous on vous donne quand même rendez-vous dimanche prochain. On se quitte avec
Shed
From The Body avec le titre Mooring, parce que j'ai beaucoup parlé entre. Et on vous donne rendez-vous dimanche prochain. Des bisous, ciao.
Ciao.
Ciao, des bisous.